Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouitz. Clément, la chaleur écrase la France.
Jusqu'à 40 degrés attendus en Auvergne-Rhône-Alpes et à Lyon, le ras-le-bol monte avec le thermomètre. Du changement pour les trottinettistes en Île-de-France, le casque et le gilet réfléchissant, désormais obligatoire. Bonne idée ou contrainte de plus, RMC est allé vous poser la question. Et les Bleus, emmenés par Léon Marchand, veulent briller à domicile au championnat d'Europe de natation.
Vous en prendrez bien une cinquième vague de chaleur en France depuis fin mai.
Le mercure va flamber dans l'Est, le Sud-Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à frôler les 40 degrés à Lyon. Une chaleur qui met les organismes à rude épreuve et qui commence aussi à faire perdre patience aux Lyonnais.
Ah bah ras-le-bol total, hein, ras-le-bol total. Je suis pas climatisée à la maison parce que j'ai toujours refusé jusqu'à présent parce qu'on dit bon bah ça pollue la climatisation. Mais l'été prochain, je serai climatisée, ça c'est sûr.
En plus, à Lyon, là, chaque été, et là cet été, c'est les 3 mois, là, c'est interminable. Donc même quand il pleut, ça reste bien chaud. Donc mais bon, on fait avec.
Bah après, on trouve des solutions. On essaye d'aller dans des lacs autour, mais bon, c'est pas l'idéal. Et là, ouais, là, ça tape.
Au début, on en a marre. Et même c'est compliqué de supporter. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on s'y fait. Et notre corps s'habitue. C'est inquiétant, peut-être.
Et Charlène Villemer, cette chaleur va s'installer plusieurs jours en France et le pic est attendu en milieu de semaine.
Oui, après une journée de transition demain, des températures stationnaires le matin avec du frais au nord, le mercure va encore grimper l'après-midi entre 32 et 37 degrés en moyenne. C'est mercredi donc que la chaleur va se généraliser à l'ensemble du pays. Les minimales vont dépasser la barre des 20 degrés. Le thermomètre, lui, sera compris entre 32 et 39 au niveau national l'après-midi avec des pointes jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest et la vallée du Rhône. Des nuits tropicales aussi et des températures qui auront du mal à descendre et à passer sous la barre des 20 degrés. Ce n'est que samedi prochain, le 15 août, que ça va baisser avec le retour des nuages et des averses orageuses. Une baisse notable entre 5 et 7 degrés en moins. Mais malgré tout, ce cinquième épisode caniculaire sera moins intense que le mois dernier selon Météo France.
Charlène Villemer, le monde agricole souffre également de cette canicule. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui est attendu aujourd'hui dans l'Aveyron, qualifie cette sécheresse de catastrophe et il exige des actions concrètes et immédiates de la part du gouvernement. Samuel Meymar voit son exploitation laitière dans l'Aveyron mise à rude épreuve par ses conditions climatiques.
Ça dure depuis le 15 mai. On est un peu de la corde, quoi, on va dire. On peut plus, quoi. Ça va toucher toutes les productions. Que ce soit les céréaliers qui ont eu des récoltes moyennes, que ce soit les maraîchers qui ont du mal à maintenir les plants en vie, que ce soit les éleveurs qui ont du mal à maintenir les animaux en bonne santé parce que c'est compliqué, il fait trop chaud, quoi. Le stock de fourrage et autres va y passer, quoi. Nous, nos privesses, hein, que ce soit le lait, que ce soit la viande, que ce soit la céréale, et c'est là-dessus qu'on veut un peu sonner l'alerte en disant ne nous baissez pas les prix parce qu'on va pas s'en sortir, quoi.
Et nos voisins européens suffoquent également. Juin et juillet viennent de signer le début de l'été le plus chaud jamais mesuré en Europe occidentale. Température moyenne de 21,6 degrés selon l'observatoire Copernicus qui prévient un nouveau pic mondial de chaleur pourrait encore survenir d'ici la fin de l'année.
Clément, après les incendies en Gironde, la solidarité s'organise aux Porges.
184 habitations détruites par les flammes. Certains sinistrés qui ont tout perdu sont accueillis chez des proches ou des voisins et d'autres ont trouvé refuge au camping municipal. Une solution d'urgence décidée par le maire face à l'ampleur des dégâts. Notre envoyé spécial Alexandre Thibault s'est rendu sur place pour RMC.
Sur la terrasse de son mobil-home, Luc est arrivé avec presque rien.
J'ai sauvé Caillou, mon petit chien, et je suis parti. J'avais 3 shorts, 3 t-shirts, 3 sous-vêtements. J'ai rien.
Malgré tout, ce maraîcher de 65 ans est ému à l'idée d'être accueilli ici.
Et je suis content d'avoir le mobil-home où je suis. Et je sais pas, retrouver une énergie. Bon, je suis ici, on m'a dit au moins jusqu'au 1er janvier, j'ai une assurance. Non, c'est pas ma maison. C'est une aide importante en attendant mon futur que je ne connais pas aujourd'hui.
Luc fait partie des 25 sinistrés déjà relogés gratuitement sur le camping. 25 autres doivent arriver dans les prochains jours.
On a vidé et mis à disposition les mobil-homes dans un premier temps pour nos sinistrés.
Angélique Van Hobel, conseillère municipale dédiée au camping.
Il y a de la forêt avec l'océan à 5 minutes. Je pense que c'est pas mal de pouvoir se poser, souffler, d'être dans un cadre bien sympathique pour pouvoir respirer.
Même si le manque à gagner est considérable pour le camping municipal, ils pourront rester le temps qu'ils veulent, promet la mairie.
Une reprise de feu feu hier à Saint-Jean-d'Iac en Gironde. 3 hectares ont brûlé. Le feu a été rapidement maîtrisé. Autre incendie en Lozère. Plus de 150 hectares ont déjà brûlé. Une vingtaine de maisons ont été évacuées. Les pompiers sont toujours mobilisés alors que le feu reste hors de contrôle. Et un ouvrier agricole placé en détention provisoire après avoir reconnu avoir provoqué plusieurs incendies volontaires dans les Deux-Sèvres. L'homme repéré à plusieurs reprises près des parts de feu aurait notamment été retrouvé avec un chalumeau dans son véhicule.
RMC 8h05, les fidèles vont se ruer sur les billets pour rencontrer le pape Léon XIV en France.
Le souverain sera à Lourdes, Metz et Paris fin septembre. Ce sera sa première visite en France. La billetterie ouvre ce midi pour assister à une grande veillée au Stade de France et une messe sur la place de la Concorde à Paris. Alors comment obtenir ce fameux sésame? Réponse de Lou Garnier.
Tout se passe sur le site inscription.pape-france.fr. Les célébrations sont gratuites. Si vous souhaitez assister à la veillée des jeunes au Stade de France le 25 septembre, il faut que vous ayez entre 17 et 35 ans. L'inscription est obligatoire. La jauge du stade situé à Saint-Denis étant limitée à 80 000 places. Pour la messe en plein air du pape Léon XIV qui a lieu le lendemain sur la place de la Concorde et aux Champs-Élysées, l'inscription n'est pas obligatoire mais vivement recommandée. 500 000 personnes sont attendues sur place. Et puis, si vous n'arrivez pas à assister aux célébrations, sachez qu'il est prévu que Léon XIV fasse un grand tour de papa mobile selon l'archevêque de Paris. Une occasion supplémentaire pour voir le pape.
Là, il n'est pas question de papa mobile, mais de trottinette. Et à trottinette, fini de rouler sans protection.
Le casque et les équipements réfléchissants deviennent obligatoires. À trottinette, c'est le cas à Paris et dans plusieurs départements d'Île-de-France. Une mesure face à l'explosion des accidents mortels. À Toulon, où la règle n'est pas encore en vigueur, Charlotte Guerre a demandé aux trottinettes ce qu'ils en pensent.
Difficile de croiser un trottinettiste avec un casque sur la tête à Toulon, comme Christine, 58 ans, qui ne porte qu'un gilet réfléchissant pour aller au travail le matin. Mais si les mesures deviennent obligatoires, elle s'y pliera.
Moi, je dis que c'est bien. C'est vrai que voilà, il faut le faire. On ne sait jamais. On peut être fauché à tout moment.
Et Zara le reconnaît, elle est déjà tombée alors qu'elle ne portait aucune protection.
J'avais des mal à la tête pendant 3 jours. J'ai regretté de ne pas porter la casque.
C'est pour ça qu'elle n'est pas contre une obligation de le porter. Toutefois, pour Ryan, 18 ans, qui parcourt près de 80 km en trottinette tous les jours, c'est hors de question.
Ouais, c'est embêtant d'avoir un casque. Je ne me vois pas sur une trottinette avec un casque. Franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien de porter un casque.
Des comportements qui inquiètent la Ligue contre la violence routière, comme l'explique Pierre Lagache, vice-président de l'association qui réclame ces mesures depuis plusieurs années.
On attend effectivement de la part de l'État, qui a eu tendance ces derniers temps plutôt à se reposer sur les collectivités locales, à finalement fixer cette règle.
D'autres départements et villes ont déjà mis en place ces mesures, comme dans les Alpes-Maritimes, Lyon ou le Vaucluse.
Un équipement obligatoire, casque, gilet fluo pour les trottinettistes. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Eh bien, nous serons avec Luc dans un instant au 32-16.
Trahison, le coup de colère de l'Association nationale de police judiciaire contre Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux alerte dans une note sur les graves ratés des enquêtes sur les violences sexuelles visant des mineurs après l'affaire Liana. Mais l'association lui répond sèchement, ces problèmes, vous les connaissiez déjà quand vous étiez ministre de l'Intérieur. Elle remet directement en cause la réforme de la police judiciaire menée sous son ministère.
Et vous l'entendrez à 8h40 sur RMC, RMC Story, puisque Rudy Mana, secrétaire national du syndicat UNSA Police, est mon invité.
Un blessé grave dans l'incendie d'une chambre de l'hôpital du Mans. Cet homme de 59 ans est en urgence absolue. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de ce feu incendie qui a fait également 10 blessés.
Coup d'envoi ce matin des championnats d'Europe de natation.
Et ce sera à vivre sur RMC avec vous, Julien Richard. Vous êtes avec nous ce matin en direct du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. Les Bleus ne veulent pas manquer les retrouvailles avec le public français 2 ans après les JO de Paris, même si leur star Léon Marchand arrive diminué.
Oui, le quadruple champion olympique veut capter l'énergie, comme il le dit, des 5000 supporters dans les tribunes du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. Il rêvait de leur offrir un record du monde aujourd'hui en ouverture sur son 400 mètres 4 nages, mais Léon Marchand n'est pas suffisamment remis de sa blessure aux adducteurs, alors pas de risque. Il sera tout de même avec ses coéquipiers du relais 4 fois 200 mètres ce soir et il limitera son programme individuel aux 200 mètres papillon et 400 mètres nage libre.
Je pense que je suis quand même capable de m'amuser cette semaine dans les courses dont je suis engagé. Chaque championnat, j'ai envie de gagner, de faire une course avec une médaille d'or, forcément. J'ai quand même fait les championnats d'Europe à Glasgow, mais c'était en petit bassin. Et j'avais fait une finale, j'étais déjà très fier. Mais ouais, cette semaine, je vais essayer d'aller chercher l'or sur une des courses.
L'autre leader français, Maxime Grousset, triple champion du monde, arrive également un peu diminué par une blessure, mais l'objectif des Bleus reste de terminer meilleure nation européenne. Et puis à 2 ans des Jeux Olympiques de Los Angeles, 7 euros à la maison doit aussi permettre une revue d'effectifs, découvrir des nouveaux visages à l'image d'un sauveur Cristofini, pas encore 17 ans et qui a littéralement impressionné ces dernières semaines son partenaire d'entraînement de passage à Marseille, un certain Léon Marchand.
Et le président de la Fédération française de natation sera avec nous dans un instant sur RMC. Merci Clément, merci pour ce journal et le prochain, ce sera à 8h30. Tout de suite, Luc est avec nous au 32-16. Bonjour Luc.
Ouais, salut Rémi.
Bonjour, on est en Ille-et-Vilaine, à Saint-Armel.
Ouais, mais là je suis plutôt à Saint-Malo. Là.
À Saint-Malo, très bien, que Pierre Rondeau connaît bien, notre économiste. Ah ouais. Qu'il affectionne particulièrement, Luc, fidèle d'RMC, retraité, apiculteur. Tu veux nous parler, Luc, je me permets de te tutoyer, tu vois, ouais, parce que je te connais depuis très longtemps et tu es souvent intervenu sur l'antenne d'RMC et d'RMC Story. Luc, tu veux nous parler de l'équipement obligatoire. C'est le cas désormais à Paris pour les trottinettistes, casque et gilet fluorescent. Il nous est dit que le gouvernement envisagerait peut-être d'étendre la mesure à l'ensemble de la France. Qu'est-ce que tu en penses ?
C'est une bonne chose de l'étendre à l'ensemble du territoire. Et je rajouterais également que pour le vélo, ça serait la même chose. Moi-même, je suis cycliste. Quand je vais faire une sortie, je ne pourrais pas partir sans casque, en fin de compte. Ça devrait être obligatoire.
Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pratiquent le vélo, la trottinette, qui disent notamment pour ce qui est du vélo, toi qui es amoureux du vélo, que justement c'est la liberté, c'est être libre en vélo, c'est être léger, c'est voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus que des contraintes. Qu'est-ce que tu leur réponds ?
Bah, écoute, aux sorties du Tour de France féminin, on les voit toutes avec un casque. Elles se plaignent pas d'avoir un casque sur la tête, et pourtant il a fait très chaud. Il fait très chaud, mais lorsqu'il arrive un accident. Et puis que vous êtes devant un chirurgien, enfin vous êtes en bloc opératoire, et puis que vous avez un choc au niveau de la tête, qui est très compliqué. Quand on se fracture un membre, ça se répare. La tête, c'est difficile. Ouais, donc il faut penser un petit peu au pire qui puisse arriver. Mmh. Et un casque, ça sauve la vie. Hein.
Merci Luc d'avoir été avec nous. Luc qui est à Saint-Malo, qui nous appelait donc au 32-16, RMC 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il devait être la star des championnats d'Europe qui démarre aujourd'hui à Saint-Denis. Léon Marchand renonce aux 200 et aux 400 mètres 4 nages. Gilles Saisonnial, le président de la Fédération française de natation, est notre invité dans un instant sur RMC et sur RMC Story. A tout de suite. Bon réveil à tous.
RMC. Apolline Matin. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, il est tout juste 8h15. Les championnats d'Europe de natation démarrent aujourd'hui, en tout cas les épreuves en bassin au centre aquatique olympique de Saint-Denis. 2 ans après les JO, le public espérait retrouver Léon Marchand sur ses courses reines. Bon, il sera là, mais pas sur les épreuves reines. La fédération a annoncé samedi son forfait sur le 200 mètres et le 400 mètres nage. Bonjour Gilles Saisonnial, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Ah oui, c'est le 4 nages, je dis des bêtises. Président de la Fédération française de natation. Merci, vous excuserez, hein, je suis néophyte, mais vous êtes là pour me mettre dans le droit chemin. Comment d'abord va Léon Marchand et qui a pris la décision de ce forfait ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est le staff médical ?
Bah, déjà, c'est pas moi, donc c'est sûr. Je pense que c'est une décision collective par rapport à son staff médical, par rapport à lui aussi. Et puis, encore une fois, il est quand même libre de se faire ce choix-là. Donc, c'était pas non plus, il n'y avait pas de pression sur ça. Après, c'est sûr que c'est un compétiteur. Il a envie de toujours faire bien et de réussir. Comme il a fait à la conférence de presse, il a dit, de toute façon, il va viser autre chose.
Bon, il faut le rappeler, il a ressenti une douleur, c'était le 30, fin juin dernier, au championnat de France.
C'était à Saint-Etienne, il a nagé le matin des séries du 400 4 nages, et puis ensuite, l'après-midi, effectivement, il a ressenti une douleur aux abdos. Il a arrêté.
Bon, attention, derrière, on vous perd, restez bien près de votre téléphone, on vous perd oui. un petit peu. Donc, il a une lésion de l'adducteur, c'est ça, hein.
Oui,
bon,
c'est ça.
Donc, il ne sera pas là sur toutes les courses, mais il sera là sur certaines d'entre elles quand même, et heureusement.
Oui, oui, bah, il va faire le 200 papillons et le 200 nage libre et le 400 nage libre. Donc, il a quand même un programme intéressant. Après, comme il a dit hier à la conférence de presse, il a envie de voir ce que ça donne sur le 400. Ça fait longtemps qu'il a envie de faire ce 400 nage libre. Donc, il y va sans trop de repères. Mais voilà, après, c'est Léon. Donc, on peut s'attendre aussi à des choses impressionnantes avec Léon. C'est toujours pareil, quoi.
Ces championnats à Saint-Denis dans la piscine des JO de Paris 2024 qui nous ont tellement marqué, qui ont tellement marqué les Français, c'était quand même le grand retour à la maison pour lui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite déception pour la fédération et pour le public?
Ben oui, bien sûr, il y a toujours une déception. Déjà, la déception, je vais vous dire, elle est pour lui parce que c'est un compétiteur et voilà, il avait envie de réussir, de se faire plaisir, de faire plaisir au public, à son pays. Donc, bien sûr, c'est une petite déception. Après, on peut pas risquer une blessure dans sa carrière. Il y a encore beaucoup de rendez-vous et c'est hors de propos de prendre le moins de risques. Et je pense que voilà, avec le syndical, ils ont pris une sage décision.
Léo Marchand blessé, Maxime Grousset lui souffre d'une fracture au pied gauche.
Du métatarse.
C'est quand même deux stars françaises. C'est pas très prometteur pour ce qui va se passer peut-être, non?
Non, parce que si vous voulez, Maxime avait repris l'entraînement, donc il est peut-être à 98%, voilà, ouais. Il n'est pas à 100%, mais il est bien repris, et voilà, donc, après c'est toujours pareil, quand vous avez une blessure, pendant quelques temps il a nagé avec un pool boy, donc sans les jambes pour sa fracture, donc il a fait beaucoup de bras, ensuite il a repris effectivement progressivement l'entraînement, sur les jambes, il a un petit peu perdu peut-être musculairement sur les jambes, mais je peux vous dire que les derniers entraînements, il est très impressionnant. Donc,
on n'a pas trop
d'inquiétude.
Bon, c'est de la malchance, c'est de blessures, c'est un problème de calendrier, de charge d'entraînement peut-être?
Non, c'est malheureusement, c'est des blessures qui peuvent arriver. C'est imprévisible, hein, je veux dire, sur un saut, il se réceptionne mal. En faisant
c'est la malchance que ça arrive en même temps.
C'est la malchance. Après, Léon, c'est pareil, il a des adducteurs, la brasse. J'ai entraîné des brasseurs, c'est compliqué. C'est une blessure qui peut arriver sur les brasseurs, mais on ne peut pas la prévoir. Après, derrière, il y a tout un staff qui doit soigner, qui doit réparer. C'est la vie, quoi.
Bon, Léon Marchand sera là, on sait que c'est un immense champion, donc ça nous promet quand même de belles choses. Maxime Grousset aussi, et puis il y a d'autres espoirs.
Oui, de toute façon, il y a beaucoup d'espoir, hein. On n'a pas que ces deux grands champions, mais voilà, après c'est sûr que c'est un peu de la malchance, après on fait avec, et encore une fois, après les Jeux, il y a eu Singapour, où il y a eu énormément de résultats, on était le troisième pays mondial au niveau des médailles, derrière il y a eu les championnats d'Europe à Lublin, où il n'était pas là Léon, et l'équipe de France a aussi fini dans les premières équipes.
Vous nous promettez donc un beau programme et une belle semaine.
Oui, après, encore une fois, il faut relativiser. Bien sûr qu'il y a un peu de déception pour tout le monde, mais c'est la vie. Et puis, on se projette sur Los Angeles. Donc, aujourd'hui, l'année prochaine, vous avez les championnats du monde à Budapest.
Oui, en 2028, il y a les JO.
Voilà. Après, dans la carrière de ces sportifs, l'élément, c'est les championnats du monde et c'est surtout les Jeux Olympiques. Hein.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gilles Cézonnia, le président de la Fédération Française de Natation. Et bien sûr, ce sera ces championnats d'Europe à vivre en direct et en intégralité sur RMC avec tous nos envoyés spéciaux qui seront présents en direct de Saint-Denis. RMC, il est 8h20. L'heure de l'écho avec Pierre Rondeau, notre économiste. On n'a pas encore de voiture volante aujourd'hui en France, malgré ce qu'on nous a promis, les essais qui ont été faits, etc. Mais Pierre Rondeau, la France vient en tout cas de publier un arrêté qui autorise l'homologation des véhicules autonomes de livraison. Alors pour l'occurrence, ce sera peut-être des robots dans les rues.
Oui, on va voir débarquer des robots. Hein, voilà.
Des 2R2, etc. Bien sûr, on ne pouvait pas y échapper.
On va quasiment être dans Star Wars. Hein, la France va autoriser les robots.
Star Wars.
Star Wars.
Ah, pardon.
La France va autoriser les robots autonomes de livraison. Alors avant, il y avait les Américains, les États-Unis qui s'étaient lancés dans l'aventure. Et en Europe, le Royaume-Uni, qui était déjà à la pointe depuis 2018, avec une vingtaine de villes en expérimentation et plus de 2 millions de livraisons autonomes réalisées. Et donc, prochaine étape, la France. Bientôt, des véhicules robots pour transporter des marchandises sans aucune présence humaine.
Alors, concrètement, en quoi est-ce une évolution et voire même une révolution?
Alors une évolution parce que l'arrêté offre un cadre officiel et réglementaire à ces véhicules. Ils pourront circuler sur la chaussée grâce à leur classement dans la catégorie L de véhicules, la même que celle des cyclomoteurs, des motos, des tricycles et des quads à moteur. En gros, bientôt, vous commanderez quelque chose en ligne et ça sera directement livré chez vous grâce à un robot autonome et électrique.
La première fois, ça va faire bizarre quand il va sonner à la porte. Quoi.
Ça va faire extrêmement bizarre parce qu'imaginez, rendez-vous compte, c'est un véhicule robot gros comme un chien, équipé de 6 roues, bardé de capteurs et de caméras, roulant à 6,5 km/h dans son format standard. Mais là où ça peut être une révolution, c'est que ça peut être beaucoup plus gros en fonction des quantités livrées. Dans l'arrêté français, au maximum, il est précisé que ces véhicules pourront mesurer jusqu'à 4 mètres de long, 2 mètres de large et 2,5 mètres de haut, avec une charge allant jusqu'à 1000 kg et assurer des livraisons sur plusieurs dizaines de kilomètres. On est vraiment dans Star Wars.
Bon, en tout cas, Pierre, avec cette révolution, c'est aussi un risque. Avec une autonomie totale des machines, sans présence humaine, on fait quoi s'il y a un accident? On fait un constat avec le robot, je sais pas. Puis les emplois des livreurs. Ça aussi, là, je deviens sérieux, faut en parler.
Faut en parler. Alors déjà, au niveau de la présence humaine, l'arrêté impose une surveillance à distance et un haut niveau de sécurité. Puis les véhicules robots seront soumis aux réglementations en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles. Ensuite, effectivement, Rémi, vous avez raison, au niveau des emplois, il y a une inquiétude. Mais cette innovation pourra créer d'autres emplois. Les livreurs pourront devenir techniciens, réparateurs, assistants ou superviseurs IA.
Parce que c'est sont formés, hein, oui.
Alors, il faudra aussi effectivement réfléchir à une formation pour subvenir à leurs besoins et leurs...
Nous sommes toujours en période de vacances, pas mal de monde sur les routes et on fait, comme tous les jours, notre point sur les prix des carburants.
Et ça baisse hein, pour le litre de samplon 95. Nous étions avant le week-end à 1,97€, on est aujourd'hui à 1,96€, donc ça baisse, très légèrement, mais ça baisse. Le litre de gazole, 2,206€ vendredi, 2,163€ aujourd'hui. Le baril de pétrole, 83$ vendredi, 84,27$ aujourd'hui, donc ça augmente légèrement. Et le gaz, 55,65€ vendredi, 55,44€, ça baisse aujourd'hui.
Merci beaucoup Pierre. Pierre Rondeau, RMC 8h24, il est en vacances Arnaud de Manche, mais il nous a laissé avant de partir son meilleur. On y va.
Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, fait l'objet de rumeurs sur son état de santé, il n'est toujours pas apparu publiquement.
Oui, il serait dans le coma. Quelle idée de nommer un demi-mort à la tête d'un État. Enfin, c'est comme si Emmanuel Macron nommait Balladur à Matignon. Pourquoi les Iraniens l'ont choisi? Bon, je pense qu'ils se sont dit, quitte à ce que les États-Unis nous dégomment le suivant, autant en prendre un qui a déjà un pied dans le trou. On y perdra moins. En plus, les valides, ils voulaient pas y aller. Hein.
Bah, bien sûr.
Donc lui, il était dans le coma, il a pas pu dire non. Les autres ont demandé, tu veux être guide suprême? Ok, il est d'accord.
Bon,
c'est du morse. Ça me rappelle les plus beaux discours de Bouteflika. Les États-Unis offrent 10 millions de dollars pour des infos sur les dirigeants iraniens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des photos des mollahs, mais avant les bombardements. Donc forcément, vous vous souvenez, sur l'IA d'Elon Musk, il y avait une option. Digrok, mets cette fille en maillot de bain. Faudrait la remplacer par Digrok. À quoi ressemblerait ce dirigeant iranien s'il avait reçu un immeuble sur la tronche? Parce que là, on saurait, ce serait beaucoup plus simple.
À Paris. L'ancien appartement de Claude François est de nouveau à vendre.
Oui, alors là, j'ai un petit message perso. Ah. J'embrasse d'avance André, qui est une vraie auditrice à nous. Elle est vendéenne et elle m'écrit pour me gronder à chaque fois que je fais une vanne sur Claude François. C'est systématique. Hein. 10 minutes après, j'ai toujours un message. Alors, André, pardonne-moi et commence à rédiger ta lettre.
On y va,
car dans le 17e, l'appart de Clo-Clo est à vendre. 1,7 million pour 77 mètres carrés. L'électricité a été refaite quand même. Cette fois, c'est aux normes. Par contre, alors j'ai visité, il y a des trucs qui vont pas. Hein. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Donc, il faut régler. Il y a des travaux à faire. Moi, je sais que si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. Les voisins, ils feraient la gueule. Alors, il y a une cave avec dedans trois vieilles qui font « Laissez-nous sortir !» Claude nous a enfermés en 76, on avait 14 ans, il voulait qu'on soit rien qu'à lui. On était là avec juste une ampoule pour la lumière. Un jour, on a entendu
L'ampoule s'est éteinte et depuis, plus de nouvelles.
Mais non.
J'espère qu'il va bien. Il va bien. Non mais rassurez-moi.
Non mais ce qu'il le disait, Clo-Clo, dans ses interviews. Les femmes, après 18 ans, j'aime moins, elles réfléchissent, c'est pénible. Il est mort trop tôt. Hein. Il est mort trop tôt, en 78, bien avant de pouvoir rencontrer Jeffrey Epstein et devenir son best friend forever. Ils auraient chanté des belles chansons. Elles sont toutes belles, 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 puis après elles ont des poils. Ça c'est l'auditrice, ça c'est André qui m'écrit. Hein. Elle me dit, on était très bien dans cette cave, arrêtez. D'être méchant avec Clo-Clo. J'arrête. C'est promis.
Vous faites un peu Clo-Clo avec la voix d'Alain Juppé.
Ah bon?
Ah ouais.
Oh, y a un truc dans le nez. Il y a un truc dans le nez. Clo-Clo Juppé. À demain.
Allez, dans un instant sur RMC, RMC Story, la météo et le journal. Et puis surtout, ne manquez pas le rendez-vous, le retour des grandes gueules en direct ce matin à partir de 9h. Ce sera avec Alain Marchal, autour de lui Charles Consigny, Florian Gabali, Emmanuel Devilliers. 9h, midi, les grandes gueules en direct, c'est leur grand retour. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, dénonce des milliers de procédures concernant les violences sur mineurs que la justice n'a jamais vues. Des procédures fantôme, jamais transmise à la justice par les services d'enquête. La police se défend ce matin par la voix de Rudy Mana, secrétaire national de l'UNSA Police. Il est notre invité à 8h45. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Grégoire Morelli. C'est mercredi.
Eh oui, l'éclipse approche à grands pas. Dans l'actualité également, une nouvelle vague de chaleur qui s'abat sur la France. Et puis la visite du pape en France. La billetterie gratuite pour assister au déplacement du souverain pontife ouvre aujourd'hui.
Grégoire, dans 48 heures maintenant, la Lune se placera devant le Soleil.
Un spectacle rare et exceptionnel, mais attention, on ne badine pas avec l'éclipse. Lors de celle de 1999, 298 personnes avaient eu des problèmes oculaires. Le port des lunettes de protection est donc obligatoire. Alors ne tardez pas non plus pour vous en procurer, car elles sont de plus en plus difficiles à trouver, Tiffaine Dubuard.
Dans sa pharmacie du Val-de-Marne, Bruno Malène ne compte plus le nombre de fois où on lui a demandé s'il vendait des lunettes pour l'éclipse.
Tous les jours, plusieurs fois par jour, on a des demandes. Tout le monde est intéressé par cette éclipse.
Depuis deux semaines, le pharmacien multiplie les appels à ses fournisseurs.
Les fournisseurs sont en rupture. Il y a une demande qui est largement supérieure à l'offre.
Outre les pharmacies, ces lunettes se trouvent en supermarché, comptées environ 5 euros la paire. Mais avant de les acheter, quelques réflexes sont à adopter, rappelle Anne-Sophie Stamann, auteure d'une étude sur leur sécurité pour l'association Que Choisir.
Quand on n'y connaît rien, le plus simple, c'est encore de regarder la monture. Sur cette monture doit figurer un marquage CE, une référence à la norme ISO 12312-2015. Et la troisième chose, c'est que les verres soient complètement opaques, c'est-à-dire qu'ils filtrent bien les rayonnements et qu'en plus, ils ne soient pas abîmé, par exemple, qu'il y ait une rayure ou quoi.
Mais attention, même avec des lunettes, il est déconseillé de regarder l'éclipse solaire avec des enfants de moins de 3 ans. Pour les adultes, il est par ailleurs recommandé de ne pas fixer plus de 3 minutes d'affilée le soleil.
Juin et juillet viennent de signer le début d'été le plus chaud jamais mesuré. En Europe occidentale, l'observatoire Copernicus rapporte une température moyenne de 21,6 degrés. C'est un record qui inquiète Célestin Bougère.
Ah oui, du jamais vu de notre vivant et peut-être même depuis l'avènement de notre civilisation. C'est avec ces mots que le directeur de l'Observatoire européen du changement climatique a dévoilé ses résultats du jamais vu parce que tous les indicateurs sont au rouge. Les températures extrêmes, vous l'avez dit, mais aussi la sécheresse. Ces vagues de chaleur successives ont vidé les sols de leur eau en France, on vous en a beaucoup parlé, mais aussi en Espagne, dans une partie de l'Allemagne et au Royaume-Uni. Les niveaux d'humidité sont par exemple nettement inférieurs à ceux de juillet 2022, un mois historiquement sec. La température des océans a aussi atteint un niveau record pour un mois de juillet, près de 21 degrés en moyenne. Une inquiétude pour l'observatoire Copernicus qui prévient à cause du phénomène El Niño qui réchauffe les eaux et l'air, d'autant plus avec le changement climatique. Cela pourrait conduire à de nouveaux records de chaleur cet hiver.
Et Célestin Bougère pour RMC.
La France n'en a pas fini avec la chaleur.
Oui, 22 départements en alerte orange canicule aujourd'hui et 99 qui font face à la sécheresse qui a notamment entraîné des restrictions dans l'usage de l'eau. Conséquence, les terrains de football notamment dépérissent comme à Elsenheim dans le Bas-Rhin où Lucille Pascanet a rencontré des passionnés inquiets pour la reprise du championnat la semaine prochaine.
L'herbe du terrain d'honneur craque sous les pas de Pascal Aigelin.
Ah, c'est cramé là, regardez.
tout est dur, c'est pas bon. Hein.
Il est président de l'AS Elsenheim depuis 33 ans et il n'a pas souvent vu sa pelouse aussi abîmée. Sécheresse et restriction d'eau obligent.
Bah, l'interdiction, elle est depuis à peu près un mois, qu'on n'a pas le droit d'arroser. La Coupe de France reprend la semaine prochaine. Ça risque d'être jaune, encore plus jaune que ça. Quoi.
Pour se préparer à cette rencontre, l'entraînement a repris début juillet, mais les sensations sont différentes pour les joueurs.
C'est pas un terrain de foot, c'est du bitume, du béton.
Thomas Fertège joue avant-centre.
Les rebonds sont compliqués, pour les articulations, ça fait un peu plus mal. Forcément, on sait que quand on va tacler, on va être brûlé sur la moitié de la cuisse. Que oui, on est forcément dans la retenue.
Et forcément aussi, l'entraîneur a dû adapter sa préparation.
On est resté à 2 entraînements par semaine, alors qu'on devrait être à plus que ça.
Steve Simon s'inquiète pour la santé de ses joueurs et de leurs adversaires.
On peut pas faire d'entraînement correct, on peut pas faire un match correct. Donc, faut faire des efforts supplémentaires. Et ça, je pense que pour l'organisme, en début de saison, on va le payer. Quoi.
Tous espèrent aujourd'hui de grosses pluies. Mais selon Météo France, il devrait faire plus de 30 degrés tous les jours à Elsenheim.
Le pape bientôt en France, Grégoire, et ce sera une première.
Oui, telle une rockstar, Léon XIV prépare sa tournée dans l'Hexagone du 25 au 28 septembre. La billetterie gratuite ouvre aujourd'hui à midi. Et Lou Garnier, les fidèles que vous avez pu croiser à Paris sont dans les starting blocks bien décidés à obtenir le précieux sésame.
Sur le perron de l'église, David, 19 ans, trépigne. Il voudrait obtenir une place pour la veillée des jeunes au Stade de France avec Léon XIV.
Ce sera ma première fois de voir un pape. C'est la rockstar des chrétiens et des catholiques. Je veux dire, c'est le pape quand même. C'est la plus haute figure. C'est un événement majeur.
Excitation partagée par Sixtine. Elle espère assister à la veillée et à la messe. Pour voir le souverain pontife, elle a même changé ses plans.
J'avais prévu de prendre mes vacances à ce moment-là et je me suis dit, non, c'est mort. En fait, je veux vraiment le voir. Et il paraît hyper doux comme ça.
L'inscription pour la veillée est obligatoire. Celle pour la messe en plein air vivement recommandée. Des centaines de milliers de personnes sont attendues. Sixtine a déjà assisté à une célébration du pape François à Rome. Un souvenir qui reste gravé.
Il y a un moment de communion. Je trouve ça assez fort, hyper touchant. Et puis c'est encourageant dans la foi, le fait de se retrouver.
Un moment de partage et une parole attendue. Virginie apprécie beaucoup le nouveau pape.
Parce qu'il est assez ouvert d'esprit. Je le trouve plutôt sympathique par rapport à certains papes. En ce moment, tout va mal dans le monde. On a besoin plus d'entendre des choses de paix. C'est une belle parole.
Après Paris, le pape ira à Lourdes où il rencontrera en privé plusieurs victimes d'abus sexuels.
Et début ce matin des championnats d'Europe de natation à Saint-Denis, l'équipe de France menée par Léon Marchand qui va retrouver aujourd'hui le public français. C'est à suivre évidemment sur RMC, antenne spéciale de 18h à 20h tous les jours pour suivre les finales.
Grégoire, combiner le basket avec les échecs.
Eh oui, c'est une idée originale, celle du basketteur Victor Wembanyama, le joueur des San Antonio Spurs, organisé ce week-end la deuxième édition du Hope Gambit au Chénet et à Nanterre, un événement qui allie donc basket et échiquier. Wemby s'est d'ailleurs amusé à jouer contre de très jeunes joueurs d'échecs et il a perdu Antoine Bras.
Hier, c'est la timide Louise, 9 ans, qui a eu l'honneur d'affronter et de battre Victor Wembanyama.
Bah, c'était bien.
Pas spécialement fan de Wemby, ce qui l'importe, c'est d'avoir joué aux échecs.
Au début, j'étais un peu... Il avait un peu l'avantage et après, il a laissé sa tour et je l'ai pris et après, j'ai fait échec et mat.
Si elle ne réalise pas encore la star que représente Victor Wembanyama, son papa, Arnaud, est bien plus enjoué.
J'étais ravi qu'elle ait l'opportunité de jouer contre Victor Wembanyama. C'est un modèle pour tous les Français et en plus elle a gagné, donc je suis très très fier d'elle.
Avant Louise, c'est Adam, 6 ans et demi, qui a battu le joueur des San Antonio Spurs, un Victor Wembanyama, pas mauvais joueur du tout.
De 1, meilleur que moi tout simplement, plus talentueux, et de 2, même à 6 ans, plus d'expérience je pense.
Le basketteur français a également affronté une star américaine des échecs, Levi Roseman.
Et c'est échec et mat.
Nouvelle défaite pour Wembanyama, mais il a de quoi se consoler, son adversaire lui a dit qu'il adorait sa manière de jouer.
On termine avec le quintet, Grégoire.
Oui, ce sera sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville à 18h30. Voici le pronostic de RMC. Le favori, c'est le 2, Shape Smith. L'outsider, c'est le 11, Elusive Way. Le 2, le 11.
Merci beaucoup, Grégoire. Et le prochain journal, ce sera à 9h. Tiens, 9h, ça tombe bien. C'est l'heure où vous pourrez retrouver en direct les grandes gueules qui sont de retour en direct, donc sur RMC et sur RMC Story avec Alain Marchal. Jean-Pierre est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Rémi.
Sauf bonjour erreur Rémi. De ma part, la liaison est bonne, mais vous nous appelez d'assez loin.
Ouais, la Chine. Nanjing, ça n'a pas changé.
Vous êtes en Chine, Jean-Pierre. Vous êtes où en Chine?
Nanking, Nanjing, Nanking.
Nanking. Situé, parce que pour tout le monde, c'est pas évident. On est très loin de Pékin.
Une heure et demie de Shanghai. Une heure et demie de Shanghai.
D'accord, une heure et demie de Shanghai.
En TGV.
Vous, donc c'est la Chine du Sud. Vous faites quoi dans la vie, Jean-Pierre?
Consultant.
Consultant. D'accord. Et vous voulez nous parler de quoi exactement ?
Bah, l'expérience du casque et du gilet jaune. Ici en Chine, moi je suis arrivé, il y en a sur les scooters spécialement, il n'y avait pas de casque et pas de gilet. Personne n'en portait. Depuis 2 ans, la Chine a fait un virage à 380 où ils imposent le casque et les gilets, mais pendant plus d'un an, ils ont été, on va dire, dans la prévention, c'est-à-dire qu'ils faisaient des contrôles, ils arrêtaient les gens, mais plutôt que de les verbaliser, ils leur faisaient un rappel à la loi, ils prenaient quand même des identités pour... Et puis maintenant, ils verbalisent, au bout d'un peu plus d'un an maintenant. Enfin, ça fait quelques mois maintenant qu'ils verbalisent et ils tapent très fort.
Pour des questions de sécurité, donc, j'imagine, aussi, à la base.
Ah bah oui, à la base, oui, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Et à chaque carrefour, dans beaucoup de carrefours, vous avez des grands écrans géants et qui vous montrent les impacts de voitures avec les scooters. Et ils vous affichent le nombre de morts, le nombre de blessés qu'il peut y avoir par an et par mois même. Donc, non, il y avait beaucoup d'accidents... Parce que les scooters, c'est un peu comme les vélos, ça traverse au rouge, ça prenait des libertés. Donc,
et Jean-Pierre, vous nous dites qu'aujourd'hui,
il faut sanctionner.
Aujourd'hui, on verbalise.
On verbalise et très fort.
C'est-à-dire très fort.
Ouais, on verbalise. On va dire le salaire médian étant à 3500 RMB, l'amende peut aller de 300 à 600 RMB.
10% du salaire.
Pour quelqu'un qui n'a pas un gros salaire. Pour quelqu'un qui n'a pas un gros salaire, ça peut faire 10% de son salaire, oui.
Waouh ! Et bon, par la force des choses, c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui ?
On en voit encore qu'ils ne le mettent pas. Il y a toujours des. Il y en a. Alors, ce qui est très drôle, c'est de les voir sans le casque. On le voit à la période quand c'est les rentrées scolaires, enfin, quand c'est des écoles et tout. Ils ont tous un casque accroché au scooter. Mmh. Et dès qu'ils voient au loin la police, ils s'arrêtent tous pour le mettre. Donc, c'est pas encore rentré.
Bon, on dit que parfois les Français sont un peu indisciplinés, mais je vois que même en Chine, il y a un peu de ça aussi. Mais merci beaucoup, Jean-Pierre, de votre témoignage. Belle journée du côté de Nankin. En Chine, c'est sympa quand même d'avoir un appel comme ça de si bon matin, Clara, depuis la Chine.
C'est sympa de savoir qu'on est écouté aussi loin.
Ça fait très plaisir. RMC, 8h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Allez, dans un instant, c'est le choix de la rédaction à 8 mois de la présidentielle. Nous avons suivi des candidats totalement inconnus qui veulent entrer à l'Elysée. C'était dans un instant, donc sur RMC et sur RMC Story. À tout de suite.
RMC. Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
RMC 8h42. L'élection présidentielle, c'est dans 8 mois. Il y a les stars de l'élection, mais il y a aussi des candidats inconnus. C'est le choix de la rédaction. Pour eux, il y a 3 obstacles principaux. La notoriété, bien sûr, la récolte des fameux parrainages des maires et l'argent. RMC les a suivis, c'est le choix de la rédaction donc ce matin. Thomas Becker, vous avez rencontré Benoît Mathieu, il a 27 ans. Il est ingénieur et a décidé de partir en campagne à vélo. Il traverse la France pour convaincre des maires. Et vous l'avez retrouvé au milieu de son périple dans le village de Rocamadour, dans le Lot.
Oui, déjà 4000 km dans les jambes. Depuis avril, Benoît Mathieu traverse la France pour rencontrer des maires élus sans étiquette politique. L'occasion, au fil de ces rencontres, de dérouler son projet présidentiel.
La France, on est un pays hyper créatif. On a des innovations, on a plein de gens qui sont prêts à faire bouger les choses. Il faut qu'on les écoute, il faut qu'on désencercle la politique, qu'on ouvre tout ça et qu'on laisse les gens avoir du pouvoir et avoir du poids dans la politique.
Plus que son projet, c'est surtout sa détermination et l'originalité de sa campagne à vélo qui pousse certains élus à le recevoir. C'est le cas de Jean-Baptiste Jallet, maire de Rocamadour.
Bonjour. Bonjour. Enchanté, Jean-Baptiste Jallet.
Mais enchanté, Benoît Mathieu.
Bon, bienvenue sur Rocamadour.
L'occasion de raconter sa drôle de campagne.
J'essaie de passer par tous les départements et donc je vais faire un tour d'à peu près 12 000 km.
Combien de départements traversés ?
Faut que je recompte, mais je dois être à 36 ou 37.
C'est beau. Ouais.
Objectif pour Benoît Mathieu, décrocher le parrainage de monsieur le maire. Pour ça, il appuie sur l'argument de la jeunesse.
J'essaie de porter aussi un message un peu d'espoir pour la jeunesse, de dire on peut faire la politique différemment. J'espère que cette voix, elle sera entendue par les représentants et les élus de toute la France et que je pourrai avoir ces 500 parrainages. J'ai bon espoir.
Il faut ces 500 parrainages pour pouvoir se présenter. Pour l'instant, il a obtenu une 30aine de promesses de maire. Jean-Baptiste Jallet promet d'y réfléchir et salue l'effort.
En tout cas, ouais, la démarche de partir d'une page blanche pour arriver en quelques mois à un projet structuré, moi ça me parle. Donc je le suivrai avec plaisir.
Les parrainages, obstacle évident pour ces candidats citoyens, mais ce n'est pas le seul. Sans parti politique, difficile de financer une campagne. Pas de moyens, ça veut dire peu de déplacements, peu de meetings, pas d'équipe de communication. Jean-François Legendre, un autre candidat citoyen autofinance modestement sa campagne.
Les casquettes, les flyers, une imprimante, les déplacements, une nuit d'hôtel par-ci par-là. Je pense que j'en suis à 3-4 000 euros, si vous voulez, voilà.
Lucide quant à ses chances d'être ne serait-ce que sur la ligne de départ de la présidentielle, il tente au moins de faire connaître ses propositions avec son collectif À nous maintenant.
Pourquoi est-ce que on nous fait croire que ça ne peut concerner que certains élus? Non, nous, on a dit c'est le moment où la démocratie française doit jouer à plein.
Que ce soit pour Antoine Mikolaïsak, candidat écologiste qui sillonne la France en voiture et en train, Manolo Mlekouze, 20 ans, qui se déplace en van aménagée, Clara Eger qui propose un référendum d'initiative citoyenne pour changer la Constitution, tous ces candidats citoyens savent qu'il y a peu de chances qu'un bulletin à leur nom existe officiellement le dimanche du premier tour. Il leur reste 6 mois avant la date limite des dépôts de candidature pour convaincre et créer l'exploit.
Merci Thomas Becker, RMC 8h45, dans deux mois après la mort de la petite Liana, 85 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs restent en attente de traitement. Et dans un courrier de 12 pages révélé ce week-end, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, décrit un système à bout de souffle. Des dossiers fantômes par milliers qui n'ont jamais été transmis par les enquêteurs à la justice. Des procédures perdues, des enquêteurs non formés, des logiciels hors d'âge. La police, elle, dénonce une polémique inutile, pointe la responsabilité des différents ministres. Rudy Mana, secrétaire national du syndicat UNSA Police, est mon invité dans un instant sur RMC et sur RMC Story. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 8h48, 12 pages adressées le 29 juillet par Gérald Darmanin, ministre de la Justice, à Laurent Nunez, son collègue de l'Intérieur. Des pages révélées, un dossier révélé samedi par Le Monde. Le garde des Sceaux y compile les remontées de 37 parquets généraux sur le traitement des violences sexuelles sur mineurs en France. Et le constat, il est accablant. 1275 procédures fantômes découvertes à Nîmes. C'est un exemple. Des plaintes déposées, mais jamais transmises à la justice par les policiers et les gendarmes en charge des enquêtes. Il y en a 905 à Caen de ces procédures fantômes. À Bourges, une quinzaine de dossiers ont tout bonnement été purement et simplement perdus. Alors comment 6 enquêteurs se partagent 4000 dossiers? Bonjour Rudy Mana.
Bonjour Rémi Barret.
Merci d'être avec nous, Rudy Mana, secrétaire national du syndicat UNSA Police. Ce courrier, en tout cas ce dossier de Gérald Darmanin, qui a été envoyé donc à son collègue de l'Intérieur et qui est révélé, je le rappelle, ce week-end par le journal Le Monde, comment vous le prenez comme une alerte utile ou comme une mise en cause des services de police?
Vous savez, je pense que plutôt une mise en cause des services de police et de gendarmerie. Donc moi je trouve que c'est pas sport de la part d'un ministre qui a été 4 ans ministre de l'Intérieur de faire une lettre comme ça de 12 pages pour écrire pour l'envoyer à Laurent Nunez. Voilà, je trouve qu'il connaissait parfaitement, je dis bien parfaitement, et j'insiste, les difficultés des enquêteurs au sein de la police nationale et au sein de la gendarmerie. Il en avait totalement conscience, puisque tous les syndicats de police lui faisaient remonter pendant les 4 ans où il a été au ministère de l'Intérieur. Mmh. Et aujourd'hui, parce qu'il est garde des Sceaux, et en se basant, je le rappelle quand même, hein, il se base sur une synthèse des parquets généraux.
Donc vous imaginez, c'est les magistrats qui sont allés sur le terrain qui ont remonté ces informations, ouais.
Bien sûr, mais vous imaginez bien que les magistrats qui sont allés soi-disant sur le terrain ou qui ont demandé des informations aux services de police, vous imaginez bien qu'ils vont pas dire, en fait, nous les magistrats, on est complètement nuls, et en fait la police, ils ont fait le job.
Rudy Mana, certains parlent de trahison. Est-ce que vous vous sentez trahi par votre ancien ministre?
Trahi, non, parce que vous savez, trahison, c'est un gros mot, je trouve, trahison. Moi, je trouve que c'est pas très classe, c'est pas très sport. Voilà, je vous dis comme je le ressens. Trahison, vous savez, quand on est dans la politique, le mot trahison, est-ce qu'il veut dire quelque chose? Parce qu'après tout, dans leur carrière politique, ils ne font que ça. Donc moi, franchement, je me sens pas véritablement trahi. Je trouve que c'est pas classe, c'est pas digne d'une personne qui a été ministre de l'Intérieur pendant 4 ans, qui aujourd'hui garde des sous. Parce que je vous rappelle quand même qu'au début de l'affaire Liana, parce que c'est en rapport à l'affaire Liana, hein, l'affaire Liana, si vous vous rappelez bien, c'était la faute des magistrats. Hein. Ouais. C'est le garde des Sceaux qui le dit.
Donc vous avez le sentiment, en fait, qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice prend parti pour ses troupes et qu'il essaie de se défausser un peu sur les services d'enquête, gendarmerie, police.
Bah écoutez, j'ai pu plutôt l'impression en lisant cette lettre que c'est le cas. Mais vous savez, l'impression que ça donne par contre à beaucoup de policiers, c'est qu'on a quand même l'impression que les magistrats, à travers cette sentence, ben, ils sortent un site de parapluie, voire un parasol pour se protéger, et que le ministre de l'Intérieur se met
debout. Rudy, maintenant il y a une réalité, il y a des chiffres. 1275 procédures fantômes à Nîmes, par exemple. Ce sont des procédures qui ont été entamées, des plaintes ont été déposées, les policiers, les gendarmes enquêtent, et jamais ces procédures n'aboutissent dans les services de justice. Il y en a 905 à Agen. À Bourges, il y a tout bonnement une quinzaine de procédures qui ont été perdues. Ça, c'est une réalité.
Mais évidemment, et je n'exclus pas les difficultés des services d'enquête et parfois les fautes de certains.
On essaie de Rudy Manard, on essaie de se mettre juste dans la tête d'un parent qui a un enfant qui est présumé victime, qui va déposer plainte. Puis un jour, on lui dit, il va se renseigner, on en est où? Et on lui dit, la procédure a été perdue.
Mais
ça doit être un cataclysme.
C'est très 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 difficile. Et vous savez, là, les policiers qui ont repris des enquêtes des plaintes qui dataient d'il y a 3 ou 4 ans, vous imaginez que c'est facile d'appeler une potentielle victime pour lui dire on va vous entendre peut-être pour la première fois. Il faut savoir quand même qu'il y a 3 millions de procédures en retard dans la police et dans la gendarmerie. Vous imaginez 3 millions de procédures à traiter. Il y a de plus en plus de plaintes. Il y a une judiciarisation de la société, ça n'a échappé à personne. Ouais. Il y a un doublement des plaintes de viol sur mineurs.
Comment on fait, Rudy Manin?
Moi, j'ai entendu un président de la République qui a dit il ne faut pas nous parler de moyens. Et puis là, bizarrement, dans la lettre de Gérald Darmanin, il parle justement du manque de moyens. Alors, j'aimerais savoir où on se situe. Est-ce qu'il ne sait pas... On ne faut pas parler de moyens ou est-ce qu'il y a vraiment un manque de moyens? Mais moi, je dis que quand il y a un doublement des plaintes et que les services qui sont destinés à cela, les services pour mineurs ou les services pour les agressions sexuelles sur les enfants, ils restent à effectif constant et qu'il y a un doublement des plaintes, il est évident que c'est très compliqué à gérer, d'autant plus que ça ne se gère pas, vous l'imaginez bien, comme un vol de véhicule. C'est particulièrement long, particulièrement difficile, particulièrement compliqué, parce qu'on peut aussi parler de la complexité de la procédure judiciaire. Et là encore, depuis de nombreuses années, alors que nous la réclamons, elle n'arrive jamais.
Merci Rudy Manin d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire national du syndicat UNSA Police, RMC. Il est 8h54, il vient de s'asseoir en studio. Il est beau, il a toujours été,
mais il est gentil. En plus
le teint allé à la Marshall.
C'est le
avec
retour.
Nous.
Mais oui, c'est
le retour de vacances. Salut Alain.
Bonjour Clara, bonjour mon cher Rémi. C'est le retour des GG en direct dans un instant avec Emmanuel Devilliers, avec Charles Consigny, aussi dans les grandes gueules. Qui est le troisième?
Flora Gebali,
effectivement. J'avais un petit trou.
Je me remets en route.
Voilà. On reparlera de la bataille des fournitures scolaires, de la gratuité des fournitures scolaires au moment où Nice dit on arrête. La ville de Saint-Denis, nous on continue parce qu'il faut aider les élèves dans la précarité. Alors est-ce que c'est aux municipalités de donner gratuitement les fournitures scolaires? On en parlera avec vous au 32-16. On reviendra sur cette idée du gouvernement aussi de désindexer les hautes retraites ou les retraites les plus favorisées pour essayer d'économiser de l'argent. On regardera aussi ce qui se passe du côté de la droite. On aimerait bien un retour du septennat. Et puis on reparlera bien sûr du casque et des gilets obligatoires pour les trottinettes à Paris et en Ile-de-France. Voilà nos sujets de discussion avec vous au 32-16.
Merci beaucoup les GG. Tout de suite sur RMC, RMC Story. Nous dans Apolline Matin, on se retrouve demain à partir de 7h. Et puis Clara dès 6h. À demain.